podcast de l'UA.
C'est quoi cette histoire d'historien ? Métier d'historien, épisode 2. Historien ou historienne, c'est un métier. On ne peut guère prononcer une telle phrase sans penser au sous-titre donné par Lucien Febvre à l'ultime réflexion que Marc Bloch offrit à la postérité avant d'être fusillé par les Allemands le 16 juin 1944 pour fait de résistance au sein du réseau franc-tireur. L'ouvrage publié à titre posthume, en 1949, reçut de celui qui en était le dédicataire le titre suivant « Apologie pour l'histoire » ou « Métier d'historien ». Dans l'épisode précédent, je partageais avec toi quelques citations de médiévistes, c'est-à-dire d'historiennes ou d'historiens qui étudient le Moyen-Âge, qui nous donnaient à entendre que plusieurs Moyen-Âge peuvent coexister, celui des imaginaires, celui des idéologies et celui des historiens. Les médiévaux, c'est-à-dire cette fois les hommes et les femmes qui ont vécu durant le Moyen-Âge, avaient le goût des florilèges, des collections de citations, d'extraits d'auteurs ou de textes. Et sans doute que moi aussi. Alors, à nouveau, j'aimerais commencer en recueillant quelques idées énoncées par ce grand historien que fut Marc Bloch quand il écrivait sur son métier, parmi celles que Jacques Le Goff avait lui-même mises en valeur en 1997. L'histoire, science du temps et du changement, pose à chaque instant de délicats problèmes à l'historien. Ainsi, par exemple, et je cite Marc Bloch, « À son grand désespoir, les hommes n'ont pas coutume, chaque fois qu'ils changent de mœurs, de changer de vocabulaire. » Si le passé est par définition une donnée que rien ne modifiera plus, la connaissance du passé est une chose en progrès qui sans cesse se transforme et se perfectionne. Mais comprendre le passé en historien, c'est aussi se défaire de l'illusion paresseuse que les origines sont un commencement qui explique. Défenseur d'une histoire large et humaine, il confie encore que l'historien doit savoir dire « je ne sais pas, je ne peux pas savoir ». L'ouvrage est une proposition de méthode. L'une des préoccupations de Marc Bloch, précise encore Jacques Le Goff, c'est bien de définir l'historien comme un homme de métier. Un métier. Savais-tu que quelque chose de la notion de métier s'élabore au Moyen-Âge, vers les 12e, 13e siècles ? Des individus se regroupent autour de savoir-faire spécifiques, de gestes communs qui leur ont été transmis pour produire un travail dont la qualité peut être contrôlée, jaugée. Le respect de bonnes pratiques collectivement établies et consenties fait en retour l'honneur de la profession. Le savoir trouve aussi sa place dans ce monde nouveau des métiers et de la ville. Le savoir n'est plus seulement détenu dans les monastères, mais il reste une affaire d'hommes d'église, de clercs, tout en s'inscrivant dans le paysage nouveau des villes d'Europe. Paris, Bologne, Oxford, pour commencer. Une université, c'est d'abord une corporation, des maîtres, qui enseignent, lisent et enrichissent de leurs commentaires les textes qui font autorité en philosophie, médecine, droit ou théologie. Et des étudiants qui se forment et pratiquent des exercices pour élaborer une pensée complexe, étayée par ces textes commentés. Le mot « université » a fini par désigner dans le français moderne ces lieux d'études que dans le latin des clercs du Moyen-Âge, on a appelé aussi « studium ». Faire métier d'historienne aujourd'hui, en 2025, et l'exercer au sein d'une université, ce n'est bien sûr pas la seule projection de pratiques vieilles de 800 ans. Mais quand on consacre ses journées de travail à mieux comprendre les sociétés du Moyen-Âge, on ne peut pas ne pas déceler dans cette matrice-là quelques traces de mots et parfois de pratiques qui résonnent encore dans les lexiques et les expériences d'aujourd'hui. Mais n'oublions pas la leçon de Marc Bloch et nombre de ses héritiers. Les lexiques peuvent demeurer, les sens qu'ils recouvrent changent, eux, dans le temps. Le monde des universités a bien changé depuis les premiers statuts octroyés aux maîtres et étudiants de Paris par le roi Philippe Auguste en 1200. D'ailleurs, moi qui suis maîtresse de conférences, je suis bien placée pour m'en rendre compte. La langue médiévale que parlaient les hommes et les femmes dans leur vie quotidienne, la langue vernaculaire, comme on dit, eut très tôt le goût et le souci de féminiser les noms et les fonctions. Mais encore fallait-il que cela corresponde à une réalité vécue, pensable. Et dans les universités médiévales, il n'y avait pas de femmes « magistrae », comme on l'aurait peut-être exprimé dans le latin du monde du savoir. Les mentalités du Moyen-Âge ne sont pas seules à incriminer sur ce sujet-là. Combien de siècles encore, jusqu'à la fin du 19e, et même à bien des égards, une très longue première moitié du 20e siècle, avant que les interdits réglementaires, puis les freins culturels et les verrous sociétaux ne sautent pour permettre l'accès des femmes à l'enseignement supérieur, ses diplômes et ses métiers. Tu vas penser que je m'égare. Oui et non, car c'est bien aussi cela que de faire de l'histoire aujourd'hui. Depuis au moins les premières décennies du XXe siècle, avec Lucien Febvre et Marc Bloch, dont je te parlais plus tôt, et plus encore depuis les années 1970, avec Jacques Le Goff et d'autres. Interroger tous azimuts le fonctionnement des sociétés et pas seulement raconter les batailles ou les vies des hommes illustres. Mettre en question les possibles d'une société à une époque donnée, pour mieux saisir les pourquoi et les comment, mais aussi les stratégies de résistance, d'ébranlement, les moyens d'action des individus ou des groupes sociaux, les déplacements dans les manières de penser le monde, comme de le sentir ou de l'exprimer. Par les sources, les traces laissées par les sociétés humaines, écrites, peintes, bâties, chantées, que sais-je, tout peut faire source pour qui veut bien s'en saisir. On peut engager l'enquête. La première fois que le mot « histoire » a fait irruption dans le langage humain, c'était vraisemblablement en grec, dans la langue d'Hérodote de Tourioi, en Asie mineure, au 5e siècle avant l'ère chrétienne. Et les « historiae » qu'il a laissées au monde, ce sont d'abord des enquêtes pour comprendre les causes de la guerre, saisir les spécificités des milieux et des temps et empêcher que ne s'efface leur mémoire. Et c'était il y a 2500 ans. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, les historiens et historiennes médiévistes interrogent les sources laissées par ces sociétés humaines afin d'en saisir, avec toujours plus de nuances, les contours, les ressorts ou les dynamiques. Étudier en historien ou en historienne l'époque médiévale, c'est chausser des lunettes adaptées pour lire et appréhender le sens technique, situé, de textes produits et conservés, mais aussi pour en saisir la portée, la signification pour celles et ceux qui les élaborent ou les reçoivent. Parmi les acteurs du Moyen-Âge qui ont laissé des traces de leurs activités, certains vont élaborer des règles qui doivent façonner les conduites de vie de leurs contemporains. D'autres vont veiller à faire respecter ces normes selon la bonne mesure du temps. D'autres, encore, vont chercher à transformer des contraintes en opportunités sociales ou politiques. Des trajectoires de vie particulières peuvent aussi se révéler dans leur singularité. Elles éclairent ce que les hommes et les femmes du Moyen-Âge ont pu ou su faire des injonctions sociales de leur temps. Les historiennes ou historiens de métier ne cherchent pas en soi à restituer le réel, sans doute parce qu'il resterait de toute façon inconnaissable, impénétrable, comme inaudible pour des personnes d'aujourd'hui. Bien sûr qu'il faut avoir de la technicité pour déchiffrer les écritures d'autrefois, traduire les langues d'autrefois, mais plus encore pour mesurer l'historicité des vocabulaires, des notions, des arrière-pensées, des institutions comme des pratiques sociales. Historiciser, c'est d'abord assumer l'altérité de ce que l'on a sous les yeux pour aller vers cet objet matériel, intellectuel, artistique, sensible, en essayant de rendre à nouveau audible, intelligible sa petite musique, son sens littéral, puis sa portée en contexte. Alors il faut ensuite s'outiller d'une méthode, d'un questionnaire, d'une grille de lecture. Enquêter, ce sera poser des questions à sa source et se poser des questions à soi-même face à cette source. Ce sera comparer, mettre en perspective d'autres sources, pour défier les fausses évidences. Et enfin, il faudra faire récit de ce qu'on pense avoir compris grâce aux lectures des travaux des autres chercheuses et chercheurs, d'horizons disciplinaires parfois très différents, et grâce aux précieux bagages des sources qu'on a collectées du passé.
Peu importe ce que les bâtards visent ou ce que les bâtards disent. Je suis accueilli par la MIF comme Lee Wellin à Cardiff. Je veux pas savoir ce que ça peut faire de perdre son frère. Subir ce qu'on subit mon père, son père et le père de son père. Faut esquiver les vides poissards, les vides bâtards. Pour chasser comme les albis jouant en pays Qatar. J'essaie d'être des miens et des vôtres. J'essaie de travailler sur mes défauts et tirer mes instincts médiévaux. Cette guerre contre moi-même durera pas 100 ans. J'essaie d'assurer la filiation, rendre fiers les ascendants. Mais on se trimballe des mines de cafards. Un stylo, un style de barbare. Pour mettre en musique des rimes de bâtard. Il nous faut juste une prise, un tel ou un thème. Nous on sera jamais les fils d'un tel ou un tel. Donc on suit nos propres schémas. J'emprunte mon propre chemin quand je ferme la porte de chez moi. Des données, des nourris, des maculés, des tâches. Des rimes gâchées, des cris, des ratures et des pages. Je prie pour que la chance ne tarde plus. Je veux pas être un bâtard de plus. Des vies brisées en deux, des roues qui veulent pas tourner. Des éclaircies, y'en a pas une seule par journée. Et pour que la chance ne tarde plus. Je veux pas être un bâtard de plus.